L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Jumière, des garçons aux yeux verts. Mise en scène, production Jean-Pierre Jumière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. l'argent. Je viens de le donner. Tu me prends pour un con, dis. Où est l'argent? L'homme le fouille. Tu es venu sans argent. L'homme se met à le cogner en le maintenant. Il aimerait s'en sortir, mais il ne peut pas. L'homme lui prend la tête avec les deux mains et la lui cogne contre le mur. Le visage de Gilles reste figé. Son corps tombe comme un pantin. L'homme sort de l'allée en vitesse. Il ne bouge plus. Charles arrive dans la rue. Pour sortir de l'immeuble, un homme court et entre dans l'allée. Première des choses qu'il voit, c'est Gilles à terre. Gilles! Il court vers lui, se penche, touche, voit qu'il est mort. S'effondre, il tremble de tout son corps, s'assoit à terre à côté de Gilles, il met la tête sur ses genoux. Tu t'es sacrifié pour moi, pour que je change de vie. Il lui caresse ses cheveux. Je t'ai juré que je m'amenderai, je te le jure encore. Il donne un baiser sur le front. C'est toi que j'aime vraiment. Dès le premier jour, je t'ai aimé. Mais tu m'as titillé un peu. Et puis, j'avais peur de paraître ridicule. Alors, pour avoir l'air libéré, je me suis lancé dans cette histoire. Mais c'est toi qui avais raison. Le bonheur ne se trouve pas là. Nous n'aurions pas dû revenir de Biarritz. Tu te souviens? Charles continue à parler, et à force de parler à Gilles, son esprit perd la notion du temps, de la réalité morbide. Le monde n'existe plus. Il n'y a que lui et son ami. Que lui et son ami. Le jour se lève petit à petit. Charles, tout en baissant son ami, chante une litanie à lui.
Les saules sont toujours pleureurs. Viens pleurer sur mon épaule.
Grosse femme, veste rouge, jupe noire, sort de son appartement. Elle descend les escaliers. Voit Charles et Gilles, s'approche d'eux.
Faites-vous ici, qu'est votre ami?
Charles le regarde, sourit. Il m'a sanctifié, c'est mon ange gardien. Et elle recommence à chanter.
Viens pleurer sur mon épaule.
femme remonte chez elle. Elle téléphone la police secours. Charles a été mené à l'hôpital. On l'a examiné. Il a reçu un choc nerveux. La famille a été prévenue. Il a été mis dans une chambre seule. Il est calme dans son lit. Il passe 2 heures à regarder le plafond. Il ne parle pas. La famille est venue, mais il fait comme s'il ne les connaissait pas. Le commissaire est venu interroger la famille et leur a dit qu'il pensait qu'il avait tué accidentellement son ami. Et comme la famille lui a dit que c'était impossible qu'il fasse une chose pareille, et comme ce sont des gens très influents, l'enquête continue. Un homme est venu déposer. C'est une personne qui habite la rue où s'est passée l'attaque. L'homme a dit qu'il avait entendu des cris et du bruit et qu'un homme était sorti de l'allée avant que Charles ne vienne. Charles reprend petit à petit ses esprits. Il a changé. Ce n'est plus le même. Il voit les choses avec plus de distance. La police l'a interrogé. Puis, il a demandé à quitter l'hôpital. Après examen, ça lui a été accordé. Ses parents sont venus le prendre en voiture. Sa mère a eu très peur.
J'ai déjà une fille en maison. Mon Dieu, c'est parce que lui ne s'en va pas.
Le lendemain de son arrivée, Charles se dit : je porte en moi l'âme de Gilles. J'ai été sanctifié et renais en Gilles purifié. Je dois voir le monde d'une autre manière. La sienne. La vie reprend. Une vie remplace l'autre. Charles a décidé de poursuivre ses études, pas pour avoir plus tard une bonne place, mais pour s'instruire. Il a transformé sa chambre, enlevé tout le superflu, adieu les posters, les modèles réduits de voitures de course. Il a fait un tri dans ses disques et livres. Une fois par semaine, il va sur la tombe de Gilles se recueillir. La vie continue. Les parents inquiets l'ont observé au début, puis voyant qu'il se comporte normalement, ils le laissent. Et chacun retrouve ses propres peines en solitaire. La mère continue à souffrir à cause de son mari. Elle n'en peut plus et a décidé de partir en Italie avec une de ses amies. Le père ne rentre que très rarement chez lui. Il est avec sa jeune maîtresse. La sœur de Charles n'est pas revenue de la maison de santé. Il ne reste à la maison que l'oncle qui se fait fantôme, Charles et le grand-père. Chaque fois que Charles croise son grand-père, surtout au repas, il a honte de ce qu'il lui a dit. Le voyant manger avec de plus en plus de difficultés, il en a les larmes aux yeux. Un soir, alors qu'ils étaient assis l'un face de l'autre sur des fauteuils, Charles se dit: c'est Gilles le grand-père qui avait raison. Il est comme moi, puisque je porte Gilles en moi. Charles aimerait parler à son grand-père, mais il n'ose pas. Et chez son médecin. Il se sent de plus en plus las. Il a de la peine à respirer et à manger. Après l'avoir examiné, le médecin lui dit: vous ne pouvez pas rester ainsi. Il faut vous hospitaliser. Vous avez besoin d'aide pour respirer et manger.
Des tuyaux, des machines. Vous voulez que j'aille dans un laboratoire? Non, je veux mourir comme un homme chez les hommes et pas chez les robots.
Il arrivera bien un moment, vous serez obligé.
Oh, laissez-moi mourir debout.
Un jour ou l'autre, on vous retrouvera sans connaissance.
Oh, je me tuerai avant.
Si vous en avez la force.
Je l'aurai. L'autre personne l'aura pour moi.
Vous croyez vraiment pas à la science?
Oui, mais elle a des limites.
Charles sont au salon. Il a encore une fois quelque chose qui ne passe pas dans l'œsophage. Ceci l'empêche de respirer correctement et d'avaler. C'est extrêmement pénible. Mais que faire? Il faut supporter, rester un homme jusqu'au bout. Ceci est si épuisant que quelquefois il a envie de se laisser aller. Mais non, il tient le coup. La tête lui tourne, il semble s'affaiblir. C'est l'air qui lui manque, il étouffe. Il s'affaisse pour de bon. Se réveille dans son lit. Son médecin et Charles sont penchés vers lui. Le médecin lui dit: je vous avais prévenu, il faut vous faire hospitaliser.
J'en ai pour combien de temps à vivre?
Dieu seul le sait.
6 mois. Dites-moi la vérité.
2 mois, 3 mois. Le docteur lui serre le poignet.
Merci, docteur.
Nous allons vous laisser vous reposer maintenant. Et Charles et le médecin s'éloignent.
Charles, revient après avoir accompagné le médecin.
Bien, grand-père. Et ils sortent de la chambre. Le médecin dit à Charles, prenez le reste de la famille. Il y en a pour 2 ou 3 mois. Il faut le convaincre à se faire hospitaliser. Vous avez bien compris? Une fois avoir accompagné le médecin, Charles retourne vers son grand-père. Il est très ému. Il s'était rendu compte qu'il n'était pas bien, mais de là à le savoir qu'il était mourant, il s'approche du lit. Le vieil homme semble mieux respirer, se penche vers lui et lui prend la main qui est restée sur les draps blancs, une main maigre, lisse et froide.
Charles, tu as entendu le médecin? J'en ai plus pour 2 à 3 mois à vivre. Je ne veux pas finir mes jours à l'hôpital, ni dans cette chambre d'ailleurs. Il faut que tu m'aides. Veux-tu m'aider à passer le plus agréablement possible ces derniers mois?
Oui, grand-père.
C'est bien, mon petit. Tu agis avec froideur. Je n'ai pas besoin de pleurs ou de générignades. Ils ne servent à rien, d'ailleurs. Oui, qu'il fallait me prouver ton amour avec sang-froid. Tu sais, je t'ai toujours aimé, même lorsque j'étais en colère contre toi.
Moi aussi, je vous aime beaucoup, grand-père, et je regrette.
Parlons plutôt de ce que j'aimerais que nous fassions. Il y a une chose qui me ferait très plaisir, c'est que tu me mènes passer quelques jours au lac de Montrion, sur Haute-Savoie, acceptes-tu?
Charles se dit, et si durant le séjour il lui arrivait quelque chose? Il regarde son grand-père, il a pitié de lui. Bien, j'accepte, je veux bien, grand-père.
Merci, mon petit, nous partirons demain matin. C'est toi qui conduiras.
Charles a laissé un mot pour ses parents, il a fait les valises, aidé son grand-père à s'habiller et ils sont partis. Il fait beau, nous sommes en juin.
Beau temps pour le lac.
Ils sont partis à 9h. En début d'après-midi. Le voyage s'est bien fait, sans difficulté. Le grand-père semble aller mieux. Ils se sont arrêtés devant un hôtel chalet, au bord du lac. Une femme les a reçus et leur a montré deux chambres communicantes. Petite pièce au mur en grisette de bois, lit à une place avec un gros dredon dessus, une table en bois, une chaise et une armoire. Les deux chambres se ressemblent. Avoir défait leur valise, Charles reste près de son grand-père qui s'est allongé sur le lit. Comment vas-tu?
Quand on va, quand on sait que l'on va mourir, tu sais ce que l'on ressent. Rien. Si l'on accepte de la mort, tout devient calme. Mais il ne faut surtout pas lutter avec elle. Surtout.
Quand le grand-père se soit reposé, ils sont allés faire le tour du lac. C'est un lac de montagne où se déverse une cascade qui descend des montagnes.
J'ai voulu revenir ici. C'est parce que j'y ai été très heureux. J'avais 20 ans et j'étais parti avec une jeune fille que j'aimais. Les fleurs. C'était la première fois que j'aimais. Ce coin était le paradis pour moi. Malheureusement, ma famille ne voulait pas que nous nous marions.
Demi-heure de marche, ils se sont assis sur un toit d'arbre près du lac.
J'aurais aimé se te faire comprendre. Maintenant, c'est trop tard. C'est que dans la vie, il n'y a qu'une seule chose qui compte. C'est l'amour et non le plaisir.
J'ai compris, grand-père. Depuis la mort de Gilles, je le sais. Vous aimiez beaucoup Gilles, grand-père.
Oui. C'était un très gentil garçon. Très gentil. Rentrons maintenant. Il se fait tard.
Du restaurant, de l'hôtel. Le grand-père a pris une bouchée, puis s'est arrêté. Charles l'a vu. Ça ne passe pas.
Ça passe difficilement. Je ne peux pas. Je te prendrai une bouteille de jus de fruits pour la nuit.
Tu souffres?
Il faut aller au-delà de la souffrance. Au-delà.
Oui.
Dans la nuit, Charles a entendu les râles de son grand-père et est accouru dans sa chambre. Le grand-père est dans son lit. La mine défaite, le visage livide et en sueur, Charles s'approche de lui. S'approcher. Mais pas ton grand-père.
Je n'ai rien. Je me sens partir.
Voulez-vous que j'appelle un médecin?
Non. Surtout pas. Tu le feras après. Il faut pas avoir peur de la souffrance, de la douleur. Je n'ai rien. Et papa, c'est la vie. Il faut partir. Partir.
Mon grand-père.
Non, laisse. Personne n'y peut rien. Il faut rester un homme jusqu'à la dernière minute. Être stoïque.
Charles a les larmes aux yeux.
Je veux mourir devant toi. C'est pour te montrer comment on doit mourir et que tu n'aies plus peur. Gilles est mort, c'est pour t'apprendre à vivre. Puisqu'il t'a appris à vivre, moi je t'apprends à mourir. Comme cela, tu seras un homme libre de toute contrainte. Gilles en mourant a emporté ton mauvais côté. C'était ton tour. Sans avoir peur, je vais t'enlever la peur et la faiblesse, même la faiblesse de ne pouvoir aimer. Ne pleure pas, Charles.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le garçon aux yeux verts. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.